pour, non pas pour qu'il voit, lui, ce qui est en nous, mais pour que nous, nous voyons ce qui est en nous. Et on ne réalise pas suffisamment les bonnes choses que Dieu a mises en nous. Très souvent, même quelqu'un ne réalise pas à quel point il est conduit par l'Esprit de Dieu s'il laisse son cœur parler. J'aimerais juste vous dire deux, trois mots à ce sujet. Dieu a toujours votre meilleur intérêt à cœur et il essaie d'utiliser cette expérience du test pour vous révéler quelque chose sur votre vie. Dieu ne teste pas par le mal. Dieu ne teste pas par la maladie, il ne teste pas par le manque. À vrai dire, une des manières de tester, c'est par la prospérité. Dieu nous rend prospères, nous fait croître à tous les niveaux, et puis ensuite, on réalise vraiment ce que l'on fait quand on est plus libre, quand on a plus de temps. Parce que peut-être on peut se payer les services d'une aide ménagère. Quand on a plus de temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a plus d'argent, qu'est-ce que l'on fait? Quand on a plus d'amis, qu'est-ce que l'on fait? Donc la prospérité est un vrai test, mais pas que. Parfois, Dieu va nous demander de faire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. En tout cas, on voit dans Hébreux chapitre 11, verset 17, je vous le lis simplement, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les paroles. Ici, mettre à l'épreuve, ça veut dire, ça décrit un examen minutieux pour prouver l'aptitude d'un objet. Cela veut dire également faire passer du métal, par exemple, par le feu pour en retirer toutes les impuretés de manière à ce que le métal ait sa vraie valeur. Très souvent, on ne voit pas la vraie valeur des gens parce qu'ils sont sur des rails, parce qu'ils sont sur un mode. Et on ne voit pas. On ne voit pas cette valeur. On ne voit pas les dons qui sont en eux. On ne voit pas à quel point ils sont loyaux. On ne voit pas à quel point ils sont fidèles. On ne voit pas à quel point ils marchent par la foi. Et Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir quelque chose qu'il avait de précieux, là c'était son fils, ça peut être le temps, ça peut être des ressources, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être un projet, ça peut être un talent que Dieu nous demande de mettre de côté pendant un certain temps, parce qu'il veut que nous donnions la priorité à autre chose. Et la Bible nous dit qu'Abraham a passé le test parce qu'il l'a passé par la foi, en faisant confiance à Dieu, que s'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire, eh bien, il allait voir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Dieu n'avait pas besoin de voir quoi que ce soit. Mais Abraham, lui, avait besoin de réaliser la valeur de son engagement, la valeur de sa loyauté, la valeur de son amour. Le Seigneur connaissait déjà la solidité de la foi d'Abraham et Abraham, lui, avait besoin d'apprendre sur sa propre foi et sur son niveau de consécration. Il a découvert qu'il était prêt à tout ce que le Seigneur lui demanderait. Son engagement était authentique, mais peut-être qu'il ne le réalisait pas lui-même. Le Seigneur nous teste pour qu'on apprenne quelque chose sur nous-mêmes. Si vous passez ces tests correctement, les leçons apprises vous augmenteront votre confiance en Dieu et en vous quand vous ferez la volonté de Dieu. Réalisez que tout ce que vous faites aujourd'hui pourrait tout simplement servir de terrain d'entraînement pour votre avenir. Ne permettez jamais d'être tellement bétonné dans tout ce que vous faites que vous ne pouvez pas avancer vers la prochaine étape que Dieu vous réserve. Et si Dieu vous demande de faire un énorme sacrifice, n'oubliez pas, c'est juste sa manière de vous affranchir, afin de vous donner quelque chose de meilleur et de plus grand, et de vous rendre plus productif pour son royaume. Vous pouvez lui faire confiance. Et quand vous protégez votre cœur et gardez vos émotions libres, alors vous pourrez aller de l'avant à chaque fois qu'il vous demande de le faire. Pasteur Marc.
Bonjour à tous et à toutes. Attends, pasteur, je vais juste arrêter, j'avais mis un enregistrement en cours.
Bon, c'est fait.
Tu l'as fait ? Ok, super. J'ai le micro, cravate. Merci. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Ok. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 1. L'église de Corinthe était une grande église en termes de membres, en termes de nombre. La ville de Corinthe était une grande ville à l'époque. C'est un tout petit peu fort, Morgan, si tu peux baisser un peu mon... Merci. Non, juste mon micro 11-12. Merci. C'était une grande église, c'était une grande ville, et cette église, on va en lire un petit peu plus à son sujet, mais elle avait une réputation, qui n'était pas une bonne réputation. C'est une réputation d'immoralité, c'était une réputation où les gens se divisaient, les gens se battaient, les gens marchaient par la chair. Et pourtant, 1 Corinthiens chapitre 1, regardez ce qui est écrit. « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, donc c'est fait, c'est du passé, saints par vocation, c'est-à-dire Dieu les a appelés, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Ça aussi, c'est du passé. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, à ce stade-là, on voit que Paul est en train d'expliquer à l'église de Corinthe, vous avez déjà tout reçu de la part de Dieu. Il ne vous manque aucun don. Il vous a établi, il vous a appelé, il vous a sanctifié, il vous a rempli. Et il s'adresse à une église qui a mauvaise réputation. Et que cette réputation était avérée, elle était vérifiée, justifiée malheureusement. Ensuite il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez, restez là, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les gens de la salle, restez concentrés là. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré tout ce que l'église de Corinthe avait reçu, et vous avez remarqué que la lettre ne s'adresse pas uniquement à l'église de Corinthe, elle s'adresse, il nous est dit, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc tous les chrétiens ont ce que les Corinthiens avaient. Il dit malgré tout, nous avons besoin d'être affermis pour tenir ferme jusqu'à la fin. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la nouvelle naissance, mais qui ne suffit pas pour tenir ferme jusqu'à la fin. Qui ne suffit pas pour être irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rajouter quelque chose pour être sauvé? La réponse est non. Le salut est inconditionnel, il a été fait à la croix, et aujourd'hui, toute personne qui dit « Jésus, je te donne ma vie et je veux la tienne en échange », eh bien la Bible nous dit « Le Saint-Esprit fait de lui une nouvelle créature à l'instant même, la personne est sauvée ». Mais, il y a autre chose. Une fois qu'on a passé la porte du ciel, il y a autre chose. C'est comme si vous disiez « Je vais sortir de cet hôtel, je vais franchir le seuil et je vais rester sur le trottoir ». Il y a autre chose au-delà. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc jusqu'ici, Paul était en train de leur dire, vous avez reçu quelque chose à la nouvelle naissance, mais il y a autre chose. Ensuite, il dit, je vous exhorte, frères, verset 10, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et moi de Christ. Une des caractéristiques de l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait une guerre au sein même de l'église. Et ces gens-là étaient sauvés, nés de nouveau, il ne leur manquait aucun don. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Réponse non, Christ n'est pas divisé. Ensuite, je vous le lis simplement dans Jacques, en ce qui concerne les divisions. J'ai entendu quelque chose la semaine dernière et ça attire, par rapport à ce verset, et ça a attiré mon attention. Dans Jacques, concernant les disputes et les divisions, il nous est dit, chapitre 3, verset 16, « Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Ça veut dire que si, c'est une parenthèse, mais si tu laisses libre cours à la dispute, si tu t'autorises la dispute, et ça vaut même pour chez toi, hein, je ne parle pas qu'à l'église, automatiquement, il va y avoir de mauvaises actions qui vont suivre. C'est-à-dire que tu ouvres une porte à ta chair et au diable, et automatiquement, et il y a dit toutes sortes de mauvaises actions. Je ferme la parenthèse. Mais cette église de Corinthe était connue pour ça. Donc, c'est bizarre. On dirait qu'il y a le chaud et le froid dans cette église. Il y a tout et son contraire. Il y a une nouvelle naissance, il y a des dons extraordinaires, tous les dons, rien ne leur manque, et en même temps, il y a des disputes, c'est-à-dire toutes sortes de mauvaises actions au sein même de l'Église. Comment c'est possible? Et il continue, je reviens dans Corinthiens, vous lisez la suite, vous verrez notamment au chapitre 5, ça va tellement loin qu'il y a un cas d'inceste dans l'Église et l'Église ne traite pas le problème, et tout le monde le sait. Il y en a un qui couche avec la femme de son père. Et c'est une grande Église, et c'est connu. Nous parlons de gens qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Vous dites, il y a un paradoxe là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on croit que la nouvelle naissance est suffisante. On croit que le fait de faire une prière pour inviter Jésus à venir dans sa vie, et il le fait, on croit que le fait d'être né de nouveau, d'avoir un esprit qui est transformé par le Seigneur, suffit. Et ensuite, on regarde sa propre vie et on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, en soi, autour de nous, et on est frustré et on est dans l'incompréhension. Parce qu'on se dit, alors c'est qu'il y a un problème du côté de Dieu, ou alors c'est qu'il y a un problème avec mon salut. Il n'y a aucun problème avec Dieu et il n'y a aucun problème avec ton salut. Vous voulez la réponse? Regardez. Chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, toujours un Corinthien, pardon, je suis revenu à un Corinthien, chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alors, il parle de quoi? Si vous regardez avant, il parle de la sagesse de Dieu. Il parle de l'évangile, de la puissance de Dieu. Et il nous est dit, cette crucifixion, ce que le Seigneur a fait, on pourrait dire la nouvelle naissance, ce dont les Corinthiens avaient fait l'expérience, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit, E majuscule, donc le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Paul est en train de dire quelque chose de très important ici. Il est en train de dire, il y a en toi une partie qui est tellement profonde que elle seule connaît ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de toi. Et l'esprit, on va le voir après, ça n'est pas la pensée. Nous nous connaissons mal, mes amis. Et sans vouloir rentrer dans de la psychologie de comptoir, il y a une part de nous à laquelle, consciemment, nous n'avons pas accès. Et ici, il nous est dit, qui connaît ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, c'est important, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit t'a été donné notamment pour que tu saches ce que Dieu t'a déjà donné à la nouvelle naissance par sa grâce. Tu dis, mais comment ça se fait que j'en suis pas conscient? Comment ça se fait qu'il y a tout un processus à avoir? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Généralement, les gens sont d'accord pour dire que... Enfin, les gens, oui. Les croyants notamment, les gens généralement, je dirais, pour dire qu'il n'y a pas que la partie physique de l'être. Il y a quelque chose d'autre. Et ils appellent ça l'âme, c'est-à-dire un espèce de truc un peu vague qui serait à l'intérieur de nous et qui serait d'une certaine façon déconnecté ou du corps dans lequel on vit, quelque chose qui survivrait après, quelque chose qui est au-delà des cinq sens. On ne sait pas trop si c'est un gaz, si c'est quelque chose d'invisible, de transparent, qu'on peut toucher, pas toucher. Mais la Bible va plus loin que cela. 1 Thessaloniciens 5:23, vous y êtes. Il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a d'autres passages qui parlent de cela, mais la Bible est claire. L'être humain n'est pas composé de deux parties, il est composé de trois parties. Il est composé d'un esprit, et nous sommes des esprits. Il a une âme, c'est-à-dire une capacité de raisonnement, d'émotion, de volonté, de pensée, de mémoire, de réflexion, etc., d'imagination. Et nous vivons dans un corps. D'accord ? Trois parties. Et quand on a vu tout à l'heure dans Corinthiens, il nous est dit, c'est l'esprit, il est question de l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Donc quand tu nais de nouveau, la partie de toi dans laquelle Dieu vient faire sa demeure, c'est ton esprit. Mais tu es quand même composé de deux autres parties. Une âme, c'est-à-dire une façon de penser, d'imaginer. Et elle est sujette au changement. Tes émotions sont sujettes au changement. Tu te lèves un matin et tout va bien, tu te lèves le lendemain matin, il n'y a plus de Choco Pops et ça ne va plus. Et toutes tes décisions vont être basées sur le fait que tu n'as pas eu tes Choco Pops ce matin-là. D'accord ? Mais c'est valable pour les émotions, c'est valable pour les goûts, c'est valable pour la façon de penser également. Vous avez remarqué qu'on ne pense pas forcément. Alors il y en a, tu les retrouves 20 ans plus tard, ils n'ont pas changé d'une goutte. Hein. Ce n'est pas bon signe. Et puis, il y en a, tu les prends quelques temps plus tard et ils ont évolué dans leur façon de penser. Donc ça, c'est sujet au changement. Et puis le corps, je ne vais pas vous faire un dessin, mais lui aussi, il est sujet au changement. Dans tous les sens possibles. D'accord ? Trois parties. Dans 1 Corinthiens, revenez dans 1 Corinthiens. Donc vous comprenez que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu prend son esprit et il le met à l'intérieur de nous. Et la Bible dit, nous avons été recréés. Cette partie de nous qui était déconnectée de Dieu, qui était morte à cause de nos péchés et à cause du péché d'Adam qu'il nous a transmis, eh bien, est renouvelée. C'est pour ça que Jésus parle d'un changement tellement radical qu'il l'appelle une nouvelle naissance. Mais physiquement, il ne se passe rien à cet instant-là. Oui, parfois les gens sentent une forme de libération, de relâchement, d'apaisement. Mais enfin, le lendemain matin, quand ils regardent dans la glace, ce sont les mêmes personnes. Et leur façon de penser, eh bien, elle n'est pas radicalement transformée du jour au lendemain. En général, ça n'est pas le cas. Il y a un processus qui commence à partir de ce moment-là. Donc, la vie nouvelle que Dieu te donne, à laquelle il t'appelle, qu'il t'offre, on l'a dit, c'est à la croix que ça s'est passé. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est d'esprit à esprit. Mais, et c'est ce que les Corinthiens avaient expérimenté. Et pourtant, il se passait des choses catastrophiques dans cette église. Mais si ça se passe dans l'église, ça veut dire que ça se passe à la maison. Ça veut dire que ça se passe dans la tête et dans les corps des gens. Vous savez, l'église, c'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe hein, le reste du temps. Ou alors, on est une bande d'hypocrites. Et j'encourage tout un chacun à ne pas être différent le dimanche matin de ce qu'il est pendant la semaine. Même si ça va crisser un petit peu le dimanche matin dans ces conditions, le temps que ça s'améliore dans la semaine et le dimanche matin. D'accord ? Mais cette église de Corinthe, il y avait ce paradoxe entre les deux. Ils avaient reçu quelque chose dans leur esprit. Mais dans les deux autres parties de leur être, il y a un changement qui devait encore prendre place. Il nous est dit ici, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel, alors ça dépend un petit peu des versions, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? 14, Corinthiens 2, 14. Dans ma version, c'est l'homme naturel, l'homme animal dans certaines versions, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc ici, il fait déjà un paradoxe, un contraste, si vous voulez, entre un homme qu'il appelle un homme naturel ou un homme animal dans certaines versions et un homme qu'il appelle, alors un homme c'est un être humain, hein, qu'il appelle spirituel. Dans quelle catégorie se classaient les Corinthiens ? Dans une troisième catégorie qui vient juste après. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Et pourtant, ils étaient nés de nouveau. Ce qui veut dire que quand on est né de nouveau, on ne devient pas automatiquement homme spirituel au sens de la Bible. Est-ce que j'en ai perdu certains ? On a un esprit, nous avons tous un esprit. Chaque être humain qui vient sur cette terre, le nourrisson qui vient sur cette terre a un esprit à l'intérieur de lui. À cause du péché, cet esprit est séparé de Dieu à partir du moment où la personne décide délibérément d'enfreindre les commandements. Et il expérimente la mort spirituelle. C'est pour ça qu'il a besoin de retrouver la vie spirituelle, et ça, ça se fait en acceptant Jésus-Christ. Donc tu es un être spirituel, mais au sens de la Bible, tu n'es pas forcément quelqu'un de spirituel pour autant. Est-ce que vous comprenez ? Et il nous est dit, « Je vous ai parlé comme à des hommes charnels. » C'est-à-dire, il traduit ce que ça veut dire, « comme à des enfants en Christ. » Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Ok. Un mot sur le grec. J'ai trouvé cette note très intéressante. Paul répartit les hommes en trois catégories. Premièrement, l'homme animal, l'homme naturel, c'est ce qu'on a vu au verset 14. D'accord ? Ça, en grec, c'est psychikos. Ça veut dire l'homme non régénéré, celui qui est mort, celui qui est dans ses péchés, qui n'est pas né de nouveau. Le jour où il quitte cette terre, il va en enfer malheureusement, parce qu'il n'a pas accepté de recevoir la vie de Dieu en lui. Lui, il ne vit que de façon séparée de Dieu. Son corps est séparé de Dieu, ses pensées sont séparées de Dieu, il ne vit qu'en fonction de ses cinq sens et il ne vit qu'en fonction de ce qu'il croit être sa super intelligence et qui l'amène droit dans le trou. D'accord ? Ça, c'est les gens qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie. Et Paul appelle cela, appelle cette personne-là naturelle, psychique, animal dans certaines versions. Rien d'autre qu'un tas de viande. Ok ? Qui pense peut-être, mais qui pense mal. Ensuite, il nous est dit, l'homme spirituel, verset 15, grec, pneumatikos, c'est-à-dire celui qui a non seulement reçu l'Esprit à l'intérieur de lui, mais qui vit dans une marche avec le Saint-Esprit, qui marche par le Saint-Esprit et non plus par ses cinq sens, et non plus par ses raisonnements, qui a appris à devenir un adulte spirituel. Et on va voir comment, ensemble. Mais entre les deux, il y a quoi ? Regarde ta vie, et à toi de le dire. Tu dis, moi j'ai accepté Jésus dans ma vie, alors tu n'es plus un être animal, tu n'es plus une personne, un homme naturel, d'après le verset. Mais s'il y a des disputes à la maison, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à te dominer sur certaines choses, et on va voir quelques caractéristiques de celui qui vit par la chair, de celui qui vit par l'esprit, vous allez pouvoir vous faire un autodiagnostic. Tu n'es peut-être plus naturel, mais tu n'es peut-être pas encore un adulte spirituel. Et tu te trouves entre les deux, comme les Corinthiens. Mais il y a de l'espoir, hein ? Vous allez voir qu'il y a quand même des... il y a quand même une évolution. Mais c'est important de comprendre cela, parce que sinon, on est frustré. On remet en cause notre salut en disant « Mais si je marche comme ça, alors ça veut dire que peut-être je ne suis pas sauvé. » Non, tu es sauvé, tu vas franchir la porte du ciel. Mais tu restes sur le trottoir. Et tu n'es pas allé plus loin dans ta marche avec Dieu. « Oh, j'attendrai plus tard. » Tu vas être choqué de ce que tu vas voir. Et tu seras passé à côté de ta vie sur terre. Entre les deux, il y a ce que Paul appelle au chapitre 3 « l'homme charnel ». C'est-à-dire, en grec, sarkikos. Sarx, c'est la chair, la viande, d'accord ? L'homme charnel, c'est celui qui est sauvé, mais qui ne marche pas selon l'esprit. Ok ? C'est celui qui marche selon la chair. Et Paul dit, tu es un enfant à ce moment-là, en Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut te donner que du lait, spirituellement parlant. Tu ne peux pas encore avoir accès au reste. Parce que tu ne le comprendrais pas, parce que tu ne l'accepterais pas, et parce que tu finirais par t'étouffer avec. Et que tu claquerais la porte de l'église en disant, c'est n'importe quoi, je refuse ça. Et pourtant, ce serait la pure parole de Dieu. Mais tu n'es pas encore à même de l'entendre. Ou alors, tu comprends qu'il y a besoin de grandir. Aujourd'hui, on parle de quoi ? De grandir spirituellement. On parle de la croissance spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que parfois les chrétiens ne comprennent pas. Ils croient que c'est rien ou tout. Non, il y a un monde entre les deux qui s'appelle la vie sur terre et qui est là pour nous aider à grandir spirituellement si nous acceptons les préceptes de Dieu et de les mettre en pratique. Vous comprenez ? Et c'est à ça qu'on est tous appelés. Et je vous rassure, les pasteurs sont au même tarif que les autres. Nous sommes tous au même tarif parce qu'on est tous des êtres humains qui avons accepté Christ. On était tous des pécheurs, on a tous été sauvés par la grâce, et maintenant notre but c'est de devenir des hommes spirituels. Et il n'y a pas que les pasteurs, je ne vous rassure pas maintenant, je vous mets un boulot sur les épaules, il n'y a pas que les pasteurs qui sont concernés, parce qu'il nous est dit, ensuite notamment dans Éphésiens, que nous devons tous arriver à l'état d'homme fait, à l'état mature. Ok ? Galates. Au chapitre 5, Morgan, je vais commencer au verset 13, jusqu'à 26. Galates 5, 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Mais on peut être né de nouveau et vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, il est question souvent des disputes. Et une fois encore, vous savez, dans cette église, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais dans cette église, nous ne prêchons pas pour que tout se passe bien le dimanche matin. Ça ne nous intéresse pas. Pour que tout se passe bien le dimanche matin, il y a Jean-Marc. C'est pour que notre vie change ensuite, au quotidien, pendant la semaine. Donc, quand je parle de dispute, bien sûr qu'on a parlé de l'église de Corinthe, et ça se tapait dessus, et ça faisait n'importe quoi, mais c'est notamment à la maison dont il s'agit. Donc là, dites, ah non, mais le dimanche matin, je me dispute avec personne. Ben non, c'est sûr, on est dans une atmosphère, il y a la clim, tout va bien, on se fait des mamours, et c'est merveilleux. Mais quand on rentre ensuite à la maison, ou même quand on va sortir de l'emplacement de stationnement, et qu'on va voir le type qui nous double un peu trop près du rétro, là, et puis quand on va rentrer à la maison, et qu'il fait chaud, et que les enfants crient, ou je ne sais quoi encore. Voilà, ça c'est la vérité. Et il est dit ici, si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous serez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, allez, autodiagnostic, sont évidentes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Alors, on se croirait dans un truc mystique, dans les temps antiques, vous savez, etc. On va essayer de les traduire peut-être dans des choses plus... Okay ? La débauche, l'impureté sous toutes ses formes, le dérèglement, tu n'arrives pas à rester cadré. L'idolâtrie. Bon, mais ça va, moi je ne m'agenouille devant aucune statue païenne. Non, peut-être, mais si tu fais passer ton boulot avant Dieu, tu idolâtres ton boulot. Si tu fais passer ton argent avant Dieu, tu idolâtres ton argent. Si tu fais passer ta voiture avant Dieu, ou ta propre personne avant Dieu, tout ce qui a pris la première place dans ta vie, ça s'appelle une idole. Allez, on continue. Souriez, tout va bien. La magie. Ah, alors dans certains... Tu dis, oh non, mais moi je ne fais pas de magie, j'ai pas de problème avec ça. Un petit seigneur des anneaux de temps en temps, et encore, c'est le maximum. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'étymologiquement, la magie, il est question des drogues également. Pas pour rien qu'ils consomment certaines choses, et ensuite, ils rentrent dans des transes, et etc. Parce que ça va toujours avec une forme de pharmacopée, si vous voulez, de chimie. D'accord ? Donc, si tu es sous antidépresseur, c'est pas un péché. D'accord ? Mais si tu te maintiens volontairement là-dedans et que tu refuses de sortir de ça, alors tu as donné la première place à une substance chimique dans ta vie. Allez, on avance. Les antidépresseurs, mais ça pourrait être autre chose, hein, bien sûr. Toute forme de drogue. Les rivalités, les querelles, c'est-à-dire les disputes, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh, on ne va pas au ciel. Non, tu vas au ciel. Mais tu n'hérites pas de ce qui compose le royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Une vie sur terre qui est épanouie, qui est prospère. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Le royaume de Dieu est déjà en toi, mais il ne se manifestera pas. Pourquoi ? Parce que tu marches par la chair. Bien que sauvé. Ensuite, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Vous avez remarqué qu'il est question de fruits. C'est-à-dire, si tu décides de laisser libre cours au Saint-Esprit dans ta vie, voilà automatiquement ce qui va pousser de toi. L'amour, la joie, la paix. C'est-à-dire, indépendamment des circonstances. Autour de moi, tout va mal. Oui, mais tu peux quand même rester dans la paix. Bon, ben, je vais me forcer. Non, il faut juste que tu marches dans l'esprit, la paix va sortir automatiquement. Ce que Jésus a dit, je vous ai déjà donné ma paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la foi. Ah oui, mais alors il faut que je me gave de la parole de Dieu encore et encore et encore, nuit et jour, nuit et jour. Bah oui, consommer la parole de Dieu, on va en parler, ça fait partie du processus. Mais si à un moment donné, tu n'arrives pas à marcher par la foi malgré toute la parole qu'il y a en toi, c'est juste parce que la chair prend trop de place dans ta vie. Parce que la foi est un fruit de l'esprit. La douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, c'est notre cas, nous vivons par l'Esprit, parce que la Bible nous dit « celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ». Donc si nous sommes nés de nouveau, si nous avons été rendus à la vie par le Saint-Esprit, eh bien l'Écriture nous dit ici « marchons aussi par l'Esprit ». Et ça n'est pas automatique. Ça, c'est un choix de notre part. Tu peux vivre par l'esprit, c'est-à-dire aller au ciel, mais ne pas marcher par l'esprit. Et laisser la chair régner jusqu'à ton dernier souffle. À ton détriment et à celui des gens autour de toi. Donc, vous comprenez qu'il y a trois types d'humains, et non pas deux. Ceux qui sont nés de nouveau, mais qui marchent par la chair. Ceux qui ne sont même pas nés de nouveau du tout, et ceux qui sont parvenus à l'état d'homme ou de femme spirituel, c'est-à-dire mature. Et ça, c'est ce que, si tu as accepté Christ dans ta vie, c'est ce que tu es appelé à faire. C'est ce que tu es appelé à faire. C'est ce que nous sommes appelés à faire. D'accord ? Deux manières, pour terminer, de grandir spirituellement. Tu dis, ok, j'ai compris, il faut marcher par l'esprit, il faut grandir spirituellement, comment est-ce que je peux faire ? Une des manières, regardez avec moi dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24. Jésus a dit, Matthieu 7, 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Pause. D'abord, il faut entendre les paroles de Jésus. Donc, si tu ne viens pas à l'église, si tu n'écoutes pas de message, si tu n'ouvres pas ta Bible, si tu ne parles pas avec des chrétiens, si tu n'écoutes pas de prédication sur Internet, ou que tu n'étudies pas de ton côté, tu n'entends pas les paroles de Jésus. Si tu entends les paroles de Jésus, alors tu as un choix dans la construction de ta vie. Et ici, c'est très clair, nous construisons tous notre vie. Soit tu prends ces paroles, et donc tu les entends, primo, donc à toi de t'exposer à la parole de Dieu, et secondo, tu les mets en pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accumuler de la connaissance intellectuelle. Et ceux qui ont fait des études, ou ceux qui aiment la connaissance académique, ça peut être un piège pour nous, je m'inclus là-dedans. Ça peut être un piège pour nous, c'est-à-dire accumuler de l'information, avoir une grosse tête, et ne jamais la mettre en pratique. Les Français sont très forts pour ça. Ils savent beaucoup de choses. Mais il ne se passe pas grand-chose. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ lui-même. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, tu vas me dire c'est déjà pas mal, lui au moins il entend les paroles. Tu sais quoi ? Dieu va s'assurer que tout le monde ait entendu sa parole au moins une fois dans sa vie et a eu le choix d'accepter ou de refuser. Celui qui accepte, Dieu va lui en donner plus. Celui qui refuse, il y aura X chances et puis après, le temps sera écoulé. Donc Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il n'y en a pas quelques-uns qui entendent la parole de Dieu et d'autres qui ne l'entendent pas. Il dit, celui-là sera, et ne les met pas en pratique, celui-là sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison. Lui aussi, il a bâti sa maison. Nous bâtissons tous notre maison. On est tous en train de faire ce qu'on veut de notre vie, finalement. Mais lui, il a construit sur le sable. La pluie est tombée. Ah, il semblerait que tout le monde traverse des difficultés dans la vie. Pour le sage, comme pour l'insensé, la pluie est tombée. Les torrents viennent, les vents soufflent et se jettent contre cette maison, mais elle, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, ici, Jésus est très clair. Nous construisons tous notre vie, mais celui qui veut la construire de façon intelligente, il doit entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jacques dit exactement la même chose. Ne vous bornez pas à l'écouter, sans quoi vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Vous la racontez, dit en d'autres termes. Et c'est terrible, parce que vous êtes en train de vous tromper, c'est-à-dire que vous êtes convaincu, vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Et un beau jour, tout s'écroule, et là, on se met à accuser sa femme, son mari, ses parents, Dieu. Entendre et mettre, écouter et mettre en pratique. Première chose. Deuxième chose, revenez dans 1 Corinthiens. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage. Non seulement venez à l'église le dimanche matin, je vais vous dire dans les temps qui vont venir, mes amis, l'église, comment le dire pour mettre suffisamment l'emphase là-dessus, va devenir vitale. Beaucoup de gens la considèrent comme une option ou un loisir aujourd'hui. L'église va devenir vitale. Et donc venez à l'église, prenez l'habitude de venir à l'église. Ce n'est pas quand on commence à se noyer qu'il faut apprendre à nager, hein. Mais deuxièmement, étudiez la parole de Dieu pendant la semaine. Je n'ai pas le temps, alors trouve le temps. En vérité, tu l'as, mais tu as décidé de le consacrer à autre chose. C'est aussi simple que ça. Et si tu dis, Seigneur, comment je peux faire parce qu'il ne me reste que la nuit, si c'est ta décision, Dieu va donner de la grâce pour que ton corps ait besoin de moins de sommeil, ou que tu puisses te lever plus tôt, ou que tu aies l'intelligence de te rendre compte qu'il y a certaines choses qui peuvent peut-être être mises au second plan, parce qu'elles aussi ont pris la première place dans ta vie. Mais 1 Corinthiens, au chapitre 13, si je, pardon, 14, il nous est dit verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue... » Il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est que parler en langue, que ce soit dans cette salle ou qui écoutent sur Internet. Vous relirez Actes chapitre 2, ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Ces gens-là, qui étaient nés de nouveau, ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu en eux. Parce que quelques chapitres auparavant dans Jean, Jésus a soufflé sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, ils sont nés de nouveau. Mais ils n'ont pas encore fait l'expérimentation du Saint-Esprit qui vient saturer tout leur être. Au point qu'à ce moment-là, tu te mets à parler dans une langue que ton intelligence ne comprend pas. Voilà ce que c'est que l'expérience de parler en langue. Et ça n'est pas un one-shot, comme on dit, ça n'est pas une chose qui se passe une fois et qui est éphémère, mais c'est quelque chose que tu peux ensuite pratiquer aussi souvent que tu le souhaites. Il est dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit, esprit, pas âme, pas intelligence, c'est en esprit, qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, c'est là où je voulais en venir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Et plus loin, il est dit, et je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc c'était quelque chose que Paul pratiquait, c'était quelque chose dont il avait compris l'importance. Celui qui parle en langue s'édifie, ça veut dire quoi ? Se construit, se renforce, grandit, s'établit, s'étoffe lui-même. Et pourtant, il nous a dit quelques versets avant qu'il parle à Dieu. Donc c'est une forme de prière où tu vas te connecter à Dieu, mais où tu vas te construire toi-même. Donc voilà deux manières, il y en a d'autres, mais voilà deux manières principales de grandir spirituellement. Tu mets la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Non seulement le dimanche matin, mais le dimanche matin, c'est un petit-déj, au mieux un brunch, selon l'heure à laquelle on termine. Ce dont tu as besoin, c'est d'une nourriture consistante et régulière. Donc il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change dans ton emploi du temps si tu dis « j'ai trop peu de la parole en moi ». Et on vit dans une génération où il y a mille et une façons de mettre la parole en soi. On a la Bible, on a des bouquins, on a Internet, vous allez sur le site de l'Église, les messages sont gratuits, vous pouvez les réécouter, il y a de bons prédicateurs. Donc, il y a plein de façons de mettre la parole en soi. Vous la mettez en pratique. Ça ne sert à rien de se gaver comme une oie. Prenez quelque chose que vous avez entendu et appliquez-le. Et prions en langue. Si vous ne savez pas comment prier en langue, venez me voir à la fin du culte, vous allez voir, Pasteur Elisabeth a disparu, je ne sais pas où elle est, ou Evelyne, qui sont là, ou Christelle, qui sont de vert vêtus aujourd'hui. Et on regardera les Écritures et on vous expliquera comment recevoir le baptême du Saint-Esprit pour expérimenter le parler en langue. D'accord ? Vous avez des bouquins sur le sujet au fond. Donc, instruisez-vous. Mettez la parole en vous. Et vous allez grandir spirituellement et vous allez voir que vous passerez de moins en moins de temps à marcher dans la chair et que nous allons prendre goût à marcher par l'Esprit. À marcher par l'Esprit. Avoir les fruits de l'Esprit se manifester et la voix de la chair diminuer. D'accord ? J'entends parfois des gens qui veulent prendre rendez-vous avec les pasteurs. Oh, j'ai besoin de toi. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? On se dispute à la maison. Ou bien ça ne va pas au travail. Ou bien avec mes enfants, je n'y arrive pas. Et alors on donne des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous. Ça ne sert à rien si tu ne mets pas la parole de Dieu en toi, si tu ne la mets pas en pratique, si tu ne pries pas en langue, si tu ne marches pas selon l'Esprit, si tu ne prends pas la décision consciente de marcher selon l'Esprit, en disant « non, je ne vais pas laisser ma chair à ce moment-là ». Quand tu as pris la décision, par exemple, de jeûner, forcément que tu vas avoir faim à un moment ou à un autre. Forcément qu'à un moment donné, c'est à ce moment-là que tu vas sentir les odeurs de la cuisinière du dessous, qui a décidé ce soir-là de faire ton plat, de faire... D'accord ? Mais si tu fais preuve d'énergie et de volonté en disant « je dis que non, je décide consciemment de m'abstenir de manger », tu es capable de le faire. C'est la même chose en ce qui concerne la marche dans l'esprit. Si tu sens qu'à un moment donné, ta chair a envie de prendre le dessus, tu dis non. En général, si tu as mis la parole de Dieu en toi, le Seigneur va te rappeler un verset que tu vas pouvoir parler dans ta vie et c'est ce qui va te donner la puissance de vaincre la chair. Vous comprenez ? Donc, je veux vraiment vous encourager à... Et la période estivale, souvent, est une période où est-ce que c'est parce qu'il fait chaud ? Est-ce que c'est parce qu'on est sur la Côte d'Azur ? J'en sais rien, est-ce que c'est parce qu'on est en vacances, on se relâche, on est fatigué peut-être, on est en fin d'année au niveau du boulot, mais la chair prend le dessus. La chair prend le dessus. Et il ne devrait pas en être ainsi. L'esprit, il est valable pendant les quatre saisons. Hein. Amen. Donc vous voyez l'objectif, grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Je voudrais vous recommander deux bouquins, merci Morgan. Pour terminer, sur ce sujet, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux auxquels j'ai pensé quand je me préparais pour ce message. Le premier, c'est « Esprit, âme et corps » de Andrew Womack. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Andrew Womack, c'est un enseignant, il est américain, il est très direct dans sa façon de parler, mais il est aussi très pédagogue dans sa façon d'expliquer les choses. Et ce livre est à votre disposition sur la table du fond, vous pouvez aussi le commander sur Internet s'il n'y en a plus au fond. Esprit, âme et corps, et il explique très bien ce qu'on a survolé ce matin, c'est-à-dire la différence entre les trois parties de notre être, et que tout, à la nouvelle naissance, tout a été placé par Jésus dans notre esprit. Maintenant, il faut débloquer le reste. D'accord ? Et puis, ce livre-ci, La croissance spirituelle, alors il a changé de jaquette entre-temps, ils l'ont réédité, donc maintenant il est comme ça, de Kenneth Hagin, et lui aussi explique bien le processus entre ne pas connaître Jésus, être un bébé en Christ, et c'est pas une tare d'être un bébé en Christ, on commence tous quelque part, mais tu peux pas rester là. À un moment donné, tu dis, bon, grandis un peu, quoi. Tu vas pas porter des couches jusqu'à ce que tu quittes cette terre, il faut avancer. L'entre-deux, je dirais, là, lui il parle de l'adolescence spirituelle, c'est-à-dire celui qui est sur le chemin de la croissance, et puis l'adulte spirituel. Donc ces deux livres-là, alors celui-là, je crois pas que, Lydia, on n'en a pas de celui-là hein, sur la table du fond hein, aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous pouvez le commander si vous le voulez à la librairie ou sur Internet également. Voilà, on va prier. Père, je te rends grâce au nom de Jésus parce que ta parole est bonne et parce qu'elle est la vérité. Seigneur, tu veux que nous grandissions parce que tu veux que nous ayons la victoire, le succès, Seigneur. Tu veux que nous ayons des réponses à nos questions. Tu veux que nous te connaissions mieux. C'est ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Une intimité avec toi, une relation avec toi. Pas pour accumuler de la connaissance ou de l'information, Seigneur, mais pour expérimenter cette vie abondante que tu as pour nous. Et c'est en toi que ça s'expérimente. Jésus, merci, tu es la parole vivante. Tu nous as donné le Saint-Esprit. On a tout ce qu'il faut, Seigneur. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant, de rappeler ces paroles, de rappeler ta parole à tout un chacun qui entend ce message. Et je te demande, Seigneur, de nous guider sur le chemin de la croissance. Tu es celui qui nous connaît individuellement. Tu sais comment il faut nous parler, ce qu'il faut ajuster chez nous pour nous amener à grandir. Je te remercie, mon Dieu, de ce que les progrès de tous sont évidents. Les mois passants, Seigneur, les progrès sont évidents. Je te bénis, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.